VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Les médias Nouakchott, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. La guerre contre Boko Haram, des dizaines de membres présumés du groupe islamiste nigérian arrêtés ces jours-ci au Tchad, dans le cadre de l'enquête sur le double attentat sanglant à N'Djamena à la mi-juin. Le FBI, la police fédérale américaine, a apporté sa contribution à ce coup de filet. Le point avec le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi, au micro de Jacques Aristide.
Nous avons aujourd'hui presque 70 personnes qui sont suspectées, impliquées dans les attentats du 15 juin dernier.
Nous apprenons que des enquêteurs américains, FBI notamment, sont arrivés dans la capitale. Pouvez-vous nous en parler ?
Absolument. Ils sont arrivés juste après le 15 juin. Ils nous ont appuyés sur l'identification d'explosifs et le gilet. Tout ce qu'ils nous ont dit s'est avéré aujourd'hui vrai. Et donc, ils ont travaillé sur la nature d'explosifs, les modes opératoires. Et donc, le double attentat, c'est le même engin explosif. Et le mode opératoire, c'est des explosifs qui sont artisanaux. Et même les gilets, nous ont parlé des gilets noirs et aujourd'hui, effectivement, on avait découvert que des gilets noirs. C'est le même cellule. C'est une aide américaine qui nous a aidés dans notre enquête.
Le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi, a noté que les experts du FBI ont maintenant quitté le Tchad. En RDC, 55e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui. Dans son discours à la Nation hier, le président Joseph Kabila a expliqué pourquoi il avait initié des consultations en vue d'un dialogue avec l'opposition, notamment avant les prochaines élections. On écoute le chef de l'État congolais.
J'ai donc engagé la nation sur la voie de consultation et éventuellement du dialogue, afin qu'ensemble, majorité, opposition et société civile puissent convenir de voies et moyens permettant de surmonter les obstacles qui jonchent la marche vers la troisième série d'élections générales. Ces obstacles sont liés au calendrier électoral, au financement du processus électoral. À eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus d'un milliard de dollars américains.
Le président de la RDC, Joseph Kabila. RDC toujours appelle les évêques de la conférence épiscopale nationale en faveur du report des élections locales. L'Église catholique exhorte aussi l'opposition à se joindre au dialogue national, mais uniquement pour parler du calendrier électoral aux assises politiques initiées par le président Joseph Kabila. Plus de détails avec l'abbé Léonard Santédi, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au micro d'Eddie Isango.
Le report des élections, c'est justement pour empêcher les glissements, parce que on va s'attaquer directement aux élections provinciales, législatives et présidentielles qui sont prescrites avec un délai constitutionnel et pas les élections locales, municipales et urbaines. Donc justement, parce que peut se dire sûrement par cela, les moyens, le budget et le temps. Tandis que les dialogues, c'est pour justement avoir un calendrier consensuel. Le calendrier qui est là actuellement ne remporte pas les consensus de tout le monde.
Donc, vous lancez cette invitation à l'opposition qui n'accepte pas de venir au dialogue, accusant le gouvernement de vouloir l'utiliser comme un stratagème pour prolonger, c'est le terme qu'ils utilisent pour les glissements, pour prolonger le processus électoral.
Si ce dialogue est vu pour les glissements, pour prolonger, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit qu'il ne faut pas le dialogue pour le dialogue. Les évêques, ils ont pu promouvoir ce dialogue en définissant bien les objectifs. Nous, et pour l'UPF évêques, c'est arriver à un consensus, à un calendrier consensuel et aussi examiner ce calendrier, mais aussi tout ce qui concerne le financement de ces élections. Voilà ce qu'ils disent. Donc, on est d'accord avec l'opposition qu'il ne faut pas d'aiguillement, mais alors, pour cela, il faut dialoguer.
L'abbé Léonard Santédi, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au Burundi, dépouillement des scrutins d'hier, le CNDD-FDD au pouvoir se dit satisfait du taux de participation à ces élections boycottées par les opposants. Difficile de savoir si leur mot d'ordre d'ignorer le scrutin a été suivi par les électeurs, Nicolas Pinault.
Aucun taux de participation, même partiel, n'a été dévoilé hier par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI burundaise, qui devrait mettre plusieurs jours avant de pouvoir communiquer les résultats de ce scrutin plus que controversé. Alors que le pouvoir burundais parle d'une mobilisation massive, de nombreux bureaux de vote sont restés vides et la participation a été plus que timide à certains endroits, y compris à Bujumbura, la capitale. En revanche, dans les fiefs du CNDD-FDD, la mobilisation a été plus conséquente. Le résultat de cette élection, lui, ne fait aucun doute. La victoire annoncée du parti au pouvoir ne sera ni reconnue par l'opposition burundaise, ni par la communauté internationale qui a dénoncé le climat pré-électoral délétère et demandé un report des élections, y compris de la présidentielle.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, coup de feu hier soir dans le camp de la garde présidentielle à Ouagadougou. Installation militaire proche de la présidence, d'où des interrogations et même des inquiétudes dans la population. Les explications de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Ce lundi soir, il y a eu des tirs du côté du palais présidentiel, précisément au niveau du camp de la garde présidentielle. Ça n'a pas trop duré. L'incident peut s'expliquer par le fait que la gendarmerie nationale a entendu le chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, le colonel Céleste Koulibaly, et deux de ses éléments concernant l'atterrissage de l'avion du premier ministre qui revenait d'une tournée en Turquie. L'avion devrait descendre normalement à l'aéroport de Ouaga, mais il a été dévié à l'aéroport de la base aérienne. C'est concernant cette déviation-là que la gendarmerie a voulu comprendre. La tension est d'autant plus grave que le président du Faso, ce mardi-là, devrait rencontrer les organisations de la société civile. À la dernière minute, on a appris que cette rencontre entre le président et le GSC est reportée fin mai.
Au Mali, la vie normale continue dans les administrations et dans les tribunaux malgré les violences liées à l'ex-rébellion. À preuve, la fin des travaux de la première session de la cour d'assises de Bamako cette semaine. Le bilan de la session avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Pendant cette session, sur les 150 dossiers, 7 ont été renvoyés, 147 jugés, soit un taux de 93%. Il y a eu 21 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, 15 assorties de sursis, 33 à la réclusion à temps, 15 à perpétuité, 11 peines de mort prononcées, dont 8 par contumace. Daniel Tessoguier, procureur général près la cour d'appel de Bamako.
Il faut que les Maliens comprennent que si on veut que le Mali ait rang parmi les nations qui portent l'étiquette d'état de droit, il faut que la justice retrouve réellement son rang de troisième pouvoir, au sens propre du terme. C'est pourquoi j'ai dit assez des engueulades des parvenus. Tous ceux qui pensent qu'il faut se suivre sur la justice pour faire carrière. Assez.
Cette session qui a duré un mois a permis 23 acquittements, 4 cas où l'action publique a été déclarée éteinte et 48 condamnations par contumace. Maître Alou Diara, représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali.
À aucun moment, les audiences n'ont été suspendues parce qu'il y a assises. Cette nouvelle phase de notre justice mérite être salué et encouragé. Être juge dans nos pays est difficile, surtout au Mali. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, le juge, c'est le cousin. Le juge, c'est la cousine. Le juge, c'est le camarade de grève. C'est facile d'accuser le juge. Mais celui qui n'a pas péché soit le premier à jeter la pierre.
Après cette première session de l'année, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a fait deux propositions majeures. Daniel Tessoguier.
Première proposition que je veux faire, c'est l'exclusion totale du ministre de la Justice et de l'architecture de la chaîne pénale. Pour être conforme aux normes internationales qui sont relative à l'indépendance de la justice, l'une des formules pourrait être l'article 30 du Code de procédure pénale de France qui dit ceci. Le ministre de la Justice conduit la politique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de l'application sur l'ensemble du territoire. Le second changement, c'est la nécessité d'encadrer strictement les constitutions du parti civil. Libre alors aux décideurs d'en tenir compte ou de ne pas tenir compte de ces propositions de réforme, mais qu'ils comprennent que de leur inertie à répondre aux besoins urgents et présents de la justice, de cette décrépitude de la justice par voie de conséquence et de l'État, ils répondront devant l'histoire.
À retenir que sur les plans financiers, les amendes prononcées s'élèvent à 56 millions de francs CFA, les dommages et intérêts à 33 millions de francs CFA et les remboursements à 65 millions de francs CFA. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
crise de la dette grecque, Athènes confirme qu'il ne remboursera pas le Fonds monétaire international comme il devait le faire ce mardi. Le bras de fer entre le gouvernement grec et ses créanciers est en suspens en attendant le résultat du référendum sur le paiement de la dette prévu dimanche en Grèce. Et puis, pour terminer ici aux États-Unis, la Cour suprême américaine a jugé lundi conforme à la Constitution une méthode controversée d'exécution par injection létale. Il s'agit du recours à la drogue midazolam utilisée comme un anesthésiste pendant les exécutions. Merci de votre attention.
Peace. Peace.